Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous avançons dans le récit de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ dans Saint-Luc. Nous en sommes au chapitre 23 sur le polycopier, qui contient les chapitres 21, 22, 23 et 24 de Saint-Luc. Nous en sommes à la page 18. Donc c'est évidemment des parties très riches. Les pères ont beaucoup parlé sur le sujet. J'ai pris les passages des pères les plus intéressants. Bon, encore une fois, c'est un peu subjectif, hein. Les passages que j'aime beaucoup ne sont pas forcément les passages que vous aimeriez. Mais ce que j'essaie de vous donner, c'est vraiment de vous donner l'esprit des pères. Celui qui a l'esprit des pères de l'Église, il a l'esprit d'Église. Ce qui se perd le plus aujourd'hui, on le voit très bien dans le monde moderne, c'est l'esprit d'Église. Chacun veut aujourd'hui avoir son opinion personnelle sur tout. Je pense que. Il ne faut jamais dire « je pense que », surtout en matière d'exégèse, d'interprétation de l'Écriture sainte, mais dire « voilà ce que l'Église a pensé ». Et ce que l'Église a pensé en matière d'exégèse correspond à ce que les pères de l'Église ont enseigné. Puisque c'est les pères de l'Église qui avaient la clé de l'interprétation de l'Écriture sainte. Donc l'Église, je dirais, n'a pas modifié l'interprétation des pères pour rester fidèle à ce que les pères de l'Église ont toujours enseigné. N'oublions pas que le dépôt de la foi est clos à la mort de Saint Jean. Les premiers pères de l'Église étaient très proches des premiers apôtres. Donc dès qu'on cherche à se lancer dans l'interprétation personnelle, on se sépare de l'esprit de l'Église. En se séparant de l'esprit d'Église, c'est la première étape qui nous mène à la deuxième étape, qui est la rupture totale avec l'Église. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec l'Église de Vatican II. Alors, venons à la page 18 de ce polycopier, versets 13 à 25 du chapitre 23 de Saint-Luc. Or Pilate, ayant convoqué les princes des prêtres, les magistrats et le peuple, leur dit « Vous m'avez présenté cet homme comme portant la nation à la révolte. Et voici que l'interrogeant devant vous, je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez, ni Hérode non plus, car je vous ai renvoyé à lui, et on n'a rien fait à l'accusé qui montre qu'il mérite la mort. Je le renverrai donc après l'avoir châtié. » Or, il était obligé de leur délivrer un prisonnier le jour de la fête. Et la foule tout entière s'écria, « Faites mourir celui-ci et délivrez-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison à cause d'une sédition qui avait eu lieu dans la ville et d'un meurtre. Pilate leur parla de nouveau, voulant délivrer Jésus. Mais il criait plus fort, disant, « Crucifiez-le, crucifiez-le. » Il leur dit pour la troisième fois, « Mais quel mal a-t-il fait ? Je ne trouve en lui rien qui mérite la mort. Je vais donc le châtier et je le renverrai. » Mais ils insistaient à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leur clameur redoublée. Alors Pilate ordonna que ce qu'il demandait fût exécuté. Il leur délivra selon celui qu'il réclamait, qui avait été mis en prison pour meurtre et sédition, et il leur livra Jésus à leur volonté. Le point important de ce passage de la Passion, c'est l'attitude de Pilate. Je vous en ai déjà souvent parlé, je réinsiste parce que c'est capital pour comprendre le libéralisme actuel qui détruit totalement la société chrétienne d'aujourd'hui. Pilate est un libéral fini. Il sait que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas coupable. Il sait aussi que Barabbas est coupable. Il ne veut pas d'histoire. Il ne veut pas d'histoire et en disant cette phrase qu'il va répéter plusieurs fois, « Lequel des deux voulez-vous que je vous délivre ?»« Je ne trouve en lui rien qui mérite la mort. Je vais donc le châtier et je le renverrai. » On voit toutes les contradictions de Pilate. « Je ne trouve en lui rien qui mérite la mort, donc il est innocent. Mais je vais le châtier. » Il faut savoir, est-il innocent ou il ne l'est pas? S'il est innocent, pourquoi le châtier? Mais ils insistaient à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leur clameur redoublait. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le crime intellectuel de Pilate, et c'est ça son péché grave, c'est qu'il refuse d'utiliser son intelligence pour atteindre le vrai. Il sait très bien où est le vrai, il sait que notre Seigneur n'est pas coupable. Cependant, il va donner les mêmes droits au vrai et au faux. Il va donner les mêmes droits au bien et au mal. Il donne les mêmes droits à Barabbas qu'il sait coupable et à notre Seigneur Jésus-Christ qu'il sait innocent. Les conséquences sont énormes. Quand je donne les mêmes droits au vrai et au faux, ben je tombe dans le libéralisme. Si en plus je commence le libéralisme, c'est ça la définition du libéralisme, c'est une fausse philosophie qui donne les mêmes droits au vrai et au faux. Chacun, la conséquence est grave, chacun fait qu'à sa tête, chacun fait sa propre volonté à l'intérieur de sa propre intelligence. Je refuse d'utiliser mon intelligence pour atteindre le vrai, alors que l'objet premier de mon intelligence, c'est le vrai. Je refuse d'utiliser mon intelligence pour cela, et je fais ma propre intelligence parce que ça m'arrange. Si je suis obligé d'utiliser mon intelligence pour atteindre le vrai, je vais devoir me soumettre au vrai qui n'est pas forcément ce que je voudrais moi. Donc j'ai fait ma propre vérité, j'utilise mon intelligence non pas pour découvrir la vérité objectivement, mais pour la découvrir subjectivement, je fais ma propre vérité, et donc j'en fais qu'à ma tête ce qu'on appelle le libéralisme. Si vous rajoutez à ça la deuxième étape, qui est déjà insinuée ici, ils insistaient à grands cris, verset 23, demandant qu'il fût crucifié, et leur clameur redoublée. Donc, Pilate va en plus se soumettre au nombre, à la loi du nombre. Le nombre a décidé que notre Seigneur Jésus-Christ était coupable. Le nombre a décidé que Barabbas devait être délivré. Je sais que c'est l'inverse qui devrait être fait, mais je suis le nombre parce que je suis démocrate. La démocratie, c'est ça. La démocratie, c'est pas le pouvoir du peuple comme on nous raconte aujourd'hui à longueur de journée. La démocratie, c'est le pouvoir du nombre. Donc je suis le pouvoir du nombre et je tombe dans la démocratie, dans l'esprit démocrate. Donc si vous rajoutez l'esprit libéral à l'esprit démocrate, les catastrophes, le mélange, c'est un mélange détonnant. Hein. Libéralisme plus démocratie, ça donne apostasie. C'est exactement ce qu'on va voir. Prenons la page 19 sur le polycopier. Un texte de saint Ambroise ici. Il est juste que les Juifs sollicitent la grâce d'un homicide, eux qui demandaient avec tant d'instance la mort d'un innocent. Telles sont les lois auxquelles obéit l'iniquité. L'affection du crime est acquise à ce que l'innocence a en horreur. On voit très bien que c'est la justice pratiquée par le gouvernement d'aujourd'hui. On suit le nombre. On refuse, on donne les mêmes droits aux vrais et aux faux. C'est le nombre qui va décider. Objectivement, si je suis mon intelligence, je sais que je ne peux pas tuer. Dieu nous a dit, tu ne tueras pas. Donc, la loi naturelle nous dit, tu ne tueras pas. Mais le gouvernement ne veut pas suivre la loi naturelle, il veut suivre la loi du nombre. Donc l'avortement est un crime, c'est un infanticide. La loi naturelle et la loi divine me disent « tu ne tueras pas » parce que la loi naturelle ce n'est que l'implantation, si vous voulez, de la loi divine dans la nature humaine. La loi divine et la loi naturelle me disent « tu ne tueras pas » donc l'infanticide est un crime, l'avortement est donc un crime. Contre l'intelligence, contre le bon sens le plus élémentaire, contre cette loi naturelle, cette loi divine. Mais le monde, la démocratie, l'esprit du peuple me dit que l'infanticide doit être accepté. Donc j'accepte l'infanticide. Donc l'affection du crime est acquise, est-ce que l'innocence a en horreur? C'est une belle expression de saint Ambroise. Donc le nom de ce grand criminel, ici saint Ambroise parle de Barabbas, le nom de ce grand criminel a d'ailleurs une signification symbolique. Barabbas veut dire en latin « fils du père ». Or, ce sont ceux à qui Jésus a dit, vous êtes les enfants du démon, que nous voyons donner la préférence au fils de leur père, c'est-à-dire à l'antéchrist sur le vrai fils de Dieu. Donc il faut bien comprendre ça, parce que souvent nos fidèles ne comprennent pas les conséquences. Le fait que je refuse d'utiliser mon intelligence a des conséquences épouvantables. Conséquences, c'est l'apostasie générale des nations, c'est ce auquel nous assistons aujourd'hui. Encore une fois, si j'accepte le libéralisme, à savoir on donne les mêmes droits aux vrais et aux faux, l'esprit démocratique, on suit le nombre, c'est le nombre qui fait la vérité et plus la vérité qui est objectivement unique. Eh bien, si j'accepte les deux choses, eh bien, j'arrive à l'apostasie. L'apostasie des nations est là. Souvent, on se pose la question, beaucoup de gens me posent cette question, même sur l'abbé, comment se fait-il que dans l'église du Vatican II, ils en soient arrivés si bas? La réponse, elle est là. L'église du Vatican II ne croit plus en l'objectivité de la vérité, ne croit plus en l'usage normal de l'intelligence, ne croit plus en fait que la vérité existe indépendamment de notre intelligence. Ce n'est pas notre intelligence qui fait la vérité existe indépendamment de l'intelligence. Donc l'Église du Vatican II a accepté le libéralisme, le principe du libéralisme, on donne les mêmes droits aux vrais et aux faux. L'Église du Vatican II suit le nombre, c'est le nombre qui décide, on le voit très bien avec les conférences épiscopales actuelles. Et donc, logiquement, si je rajoute l'esprit libéral à l'esprit démocrate, on obtient l'apostasie, et c'est ce qui se passe. L'Église du Vatican II est une église apostate, précisément parce qu'ils sont, ils tombent dans un gouffre, si vous voulez, à partir du moment où ils lâchent la corde qui les réunit à Dieu, ils tombent dans le gouffre, et le gouffre de l'enfer. C'est exactement ce qui s'est passé. Citation de Saint Bède le Vénérable, page 19, troisième paragraphe. Les Juifs sont encore aujourd'hui victimes de cette indigne préférence. Ils ont choisi Pilate. Ils ont choisi de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Pilate, verset 24, ordonna que ce qu'il demandait fût exécuté. Dans un texte parallèle, il est dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Les Juifs donneraient des milliards pour que cette phrase n'ait jamais été écrite et qu'elle soit enlevée de toutes les Bibles. Mais elle est là, le Saint-Esprit qui l'a mise. Hein? Que son sang retombe sur nos têtes, sur la tête de nos enfants. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Donc certes, ça ne veut pas dire que tous les Juifs sont coupables de déicide, mais tous ceux qui ont accepté, qui acceptent toujours la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le cas de pratiquement tous les Juifs actuels, sont coupables de déicide, certes. Attention, encore une fois, les Juifs convertis sont devenus des catholiques. Les premiers chrétiens étaient tous des Juifs convertis en Palestine. Eh bien, il est évident qu'à ce moment-là, ils ne sont plus Juifs. Ils sont Juifs de race, mais ils ne sont pas Juifs de religion. Il faut distinguer les deux choses. Hein. C'est pas parce que quelqu'un est Juif de race qu'on a le droit de le mépriser. Bien sûr que non. Quelqu'un peut être Juif de race, mais catholique de religion. Notre Sainte Vierge Marie, de race juive. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans son humanité, de race juive. Encore attention, ne pas dire des bêtises sur ce sujet. Sur le choix, dit Saint Bède, qu'il leur fut donné, ils ont préféré à Jésus un voleur, au Sauveur un assassin. Et ils ont mérité par là de perdre à la fois le salut et la vie, et se sont livrés à tant de brigandages et de séditions qu'ils se sont vus enlever leur patrie et leur royaume. Ça va être la destruction de la ville de Jérusalem par l'empereur Titus en l'an 70 ou 71. Mais le Seigneur avait choisi cette mort de la croix parce qu'il voulait, après avoir triomphé du démon, placer cette croix sur le front des fidèles comme un trophée de sa victoire. Donc le signe de la victoire, c'est le signe de la croix que le prêtre va placer déjà sur le front de l'enfant au baptême. Le baptême, un des exorcismes, consiste justement à mettre le signe de la croix sur le front de l'enfant. Et on retrouve le même symbole avec la confirmation. Avec la confirmation, par la confirmation, l'évêque consécrateur qui va donner la confirmation va faire trois signes de croix au moment où il donne la formule de la confirmation. C'est pour ça que la croix est tellement importante. Dans l'Église moderne, encore une fois, la croix a totalement disparu, ou presque. Nous avançons versets 26 à 32 du chapitre 23 de Saint-Luc. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils le chargèrent de la croix, la lui faisant porter derrière Jésus. Or, il était suivi d'une grande foule de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et qui se lamentaient sur lui. Mais Jésus, se retournant vers elles, leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants, car voici qu'il viendra des jours où l'on dira, « Heureuses les stériles et les entrailles qui n'ont pas d'enfants, et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. » Car s'il traite ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois sec ? On conduisait aussi avec lui deux autres hommes, qui étaient des malfaiteurs pour les mettre à mort. Il s'agit de Gestas et Dismas, les Dolarons. Ainsi, nous disent les pères, fut accomplie la prophétie d'Isaïe. Il portera sur ses épaules le signe de sa puissance. Le signe de sa puissance, c'est la croix qui était méprisée au temps des Juifs, comme le symbole de l'esclave en fuite. Les esclaves étaient condamnés à la crucifixion, donc notre Seigneur Jésus-Christ a été condamné comme un esclave. Eh bien, cette croix, vous savez que c'est l'empereur Constantin, après sa conversion, qui a interdit les condamnations à mort par crucifixion, cette croix qui était un objet de mépris, de honte, est devenue un objet de gloire. Un objet de gloire. Et la croix est sur tous les édifices religieux, sommet de l'édifice religieux, c'est toujours la croix, au sommet de l'église catholique, de l'église catholique, même dans les plus petits villages, les plus petites églises, la croix au sommet du transept et au sommet du clocher. Donc, rappelez-vous aussi que l'empereur Constantin a remporté sa victoire sur, je crois que c'était Maxence, avec le signe de la croix qu'on appelle le labarum. Par ce signe, vous vaincrez. Et ce signe, c'était le baron, c'est le signe de la croix. Vous voyez, disent les pères, les uns portaient comme marque de leur dignité un riche baudrier, les autres une tiare ou un diadème. Quant au sauveur, la marque de sa dignité, c'est sa croix. Donc la croix représente le symbole du salut. Symbole du salut. C'est pour ça que cette croix est totalement méprisée dans le monde moderne. On ne peut pas supporter les croix. Si vous avez sur vous un signe musulman, un objet musulman, un signe de reconnaissance de l'islam, il n'y a aucun problème dans le monde moderne. Par contre, ayez une croix sur votre poitrine, vous allez voir ce qui va vous arriver sur le plan professionnel. Donc, la marque de la dignité du chrétien, c'est la croix. Et c'est pour cela que la messe est tellement importante, puisque la messe n'est rien d'autre que le renouvellement de cette croix, le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Et si vous voulez bien y réfléchir, vous verrez, très belle phrase des pères, que Jésus n'établit en nous son royaume que par les souffrances. Ainsi, aussi, ceux qui recherchent les délices de la vie sont ennemis de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nul ne peut servir de maître à la fois. Soit on obéit aux ennemis de la croix, soit on obéit aux ennemis de la croix. Rappelez-vous, la prophétie, l'égard de notre Sainte Vierge Marie, elle écrasera la tête du démon. Donc il y a deux armées, l'armée de ceux qui vénèrent la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et l'armée de ceux qui haïssent, qui méprisent la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les premiers apôtres sont arrivés dans le monde moderne, dans le pays du monde moderne de l'époque, qu'est-ce qu'ils avaient devant eux ? La croix. La croix, et cette croix terrorisait les démons. Simplement, simple apparition de la croix dans des tas de cas, les premiers missionnaires ont abattu les idoles des faux dieux, simplement en présentant la croix. Le démon ne peut pas supporter le signe de la croix parce que c'est par la croix qu'il a été vaincu. Je répète cette phrase qui est fondamentale. Jésus n'établit en nous ce royaume que par les souffrances. Si ceux qui recherchent les délices de la vie sont ennemis de la croix de Jésus-Christ. Là, on voit encore la différence entre l'Église catholique et l'Église de Vatican II. L'Église catholique, ce sont ceux qui vénèrent la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église catholique, ce sont ceux donc qui vénèrent la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église de Vatican II, ce sont ceux qui sont les ennemis de la croix de Jésus-Christ et qui recherchent les délices de la vie. Souvent on me demande, c'est une question qu'on pose très souvent, mais quelle est la différence entre l'Église de Vatican II et l'Église catholique ? L'Église de Vatican II a pour but d'aider les gens à se sentir bien sur la terre. Le but de l'Église catholique, c'est d'aider les gens à aller au ciel. Est-ce qu'on peut aller au ciel en se sentant bien sur la terre ? C'est absolument impossible. Il y a un choix à faire. Autre texte de Saint Bède, le vénérable Simon, donc c'est Simon de Cyrène dont il s'agit ici, c'est cet homme qui revenait des champs et qui a été réquisitionné par
les soldats romains pour porter la croix parce qu'ils ont vu que notre Seigneur était trop fatigué et ils avaient peur qu'il meure pendant le chemin de croix. C'était la tradition pour le condamner à mort de porter le bois horizontal de sa croix, hein, le patibulum. Et ils se sont dit, il va mourir avant, il va s'écrouler, donc il va falloir qu'on porte nous-mêmes la croix pour le crucifier là-haut, au sommet du calvaire. Là, on va réquisitionner quelqu'un. Ils ont réquisitionné Simon de Cyrène. Et pour remercier Simon de Cyrène, qui au début a dû porter la croix par obligation, hein, parce qu'il était réquisitionné, point final, il a dû râler même. Disant, pourquoi est-ce que c'est moi qui dois porter la croix? Hein? Et très vite, il s'est rendu compte qu'il a reçu des grâces spéciales en portant la croix. Il a marché donc juste devant notre Seigneur ou derrière, on ne sait pas, pour porter une partie de la croix de notre Seigneur, du poids de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est vite rendu compte que l'homme qui l'aidait était le Fils de Dieu. Il a reçu cette grâce. Et pour le remercier de ce qu'il a fait, eh bien, Simon de Cyrène avait deux enfants, Simon, Alexandre et Rufus, et tous les deux ont été canonisés par l'Église. Donc Saint Bède le Vénérable nous dit que Simon de Cyrène, veut dire obéissant. Cyrène signifie héritier. Cet homme est donc bien la figure du peuple des nations qui autrefois était complètement étranger aux alliances, qui est maintenant devenu par son obéissance héritier de Dieu. Donc le début de la conversion de Simon de Cyrène fut justement l'obéissance à l'ordre qui lui avait été donné par l'autorité romaine. Il aurait pu se révolter, pu trouver une excuse en disant qu'il ne voulait pas porter cette croix, il l'a acceptée. Donc c'est en revenant de la maison des champs que Simon porte la croix après Jésus. Figurant cela des gentils qui commencent par renoncer aux superstitions du paganisme pour suivre avec obéissance les traces de la passion du Sauveur. La passion du Sauveur est représentée par la croix. Et on voit très bien, donc Simon revenait des champs, revenait du monde, il est réquisitionné, porte la croix et repart en arrière vers le sommet du Golgotha. Donc il y a un changement de direction qui manifeste, qui est le symbole de la conversion du cœur. Donc ce changement de direction manifeste, nous disent les pères, le renoncement aux superstitions du paganisme pour suivre par l'obéissance les traces de la passion du Sauveur. Notre Seigneur Jésus-Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort en portant sa croix. Il faut renoncer aux superstitions du paganisme. Le paganisme est victorieux partout, malheureusement, dans le monde moderne. Je me rappelle quand j'étais en Afrique, j'étais au Gabon, pour prêcher les églises de Saint-Ignace là-bas. Les prêtres qui étaient en charge de la mission dans laquelle j'étais, à l'époque j'étais dans la fraternité Saint-Pédis, eh bien, ce prêtre, selon les coutumes anciennes, exigeait un catéchuménat pratiquement de 3 ans pour les Gabonais qui demandaient le baptême, surtout dans la brousse. Pourquoi il demandait 3 ans? Parce que il fallait que les convertis, les néo-catholiques, les nouveaux catholiques, avant d'être baptisés, aient quitté toutes les superstitions du paganisme. Et il y en avait beaucoup. Entre autres, il commençait par y avoir la polygamie, l'adoration des faux dieux. Dans les villages, surtout les villages dans la forêt équatoriale du Gabon, mais ces villages étaient toujours centrés autour, non pas de l'église qui n'existait pas encore, mais autour de la demeure du sorcier. C'est le sorcier qui décidait tout. Et donc on ne pouvait pas baptiser quelqu'un sans qu'il ait, dans la pratique, brûlé toutes ses amulettes, tous les poisons, tous les totems, les idoles qui venaient du sorcier, et sans qu'ils aient réglé leur situation matrimoniale, ce qui était une situation, c'était une affaire énorme, extrêmement compliquée, parce que d'après le droit civil gabonais à l'époque où j'étais, c'était comme ça. En tout cas, je suppose que ça n'a pas changé. Les Gabonais avaient le droit de choisir au moment où ils faisaient un contrat de mariage devant l'autorité gabonaise politique. Quand ils faisaient un contrat de mariage, eh bien, ils pouvaient choisir soit une femme, soit plusieurs, soit 4. Eh bien, évidemment, ils choisissaient tous 4 ou presque, parce que c'est au cas où, quoi. Ça permettait d'avoir une voie de garage, une possibilité de prendre une autre femme si la première ne leur convenait plus au bout d'un certain temps. Et pour pour renoncer à la superstition, c'était terrible parce qu'il fallait énormément de temps. Parce qu'en Afrique, il n'était pas question de renvoyer une femme dans les foyers le foyer de ses parents. Imagine une personne qui est mariée, qui a quatre épouses, plus les concubines. Bon, un chef, par exemple, chef de tribu, il pouvait avoir une dizaine de concubines, hein, dans certains cas, plus les quatre filles, quatre épouses officielles. Eh bien, il demandait le baptême. Ça veut dire qu'il fallait qu'il renvoie parfois une dizaine de femmes. Alors, c'est un tel pagaille que, heureusement, les papillons avaient donné et changé certaines lois pour les missionnaires en disant, écoutez, puisque c'est une telle pagaille d'arriver à savoir quelle est l'épouse légitime là-dedans, la première, en principe, c'est la première, et souvent, ils se mariaient avec plusieurs épouses à la fois le même jour. Quand ils se mariaient pour la première fois, ils en épousaient trois ou quatre le même jour. Donc, quelle était l'épouse légitime, c'était impossible. Donc, Pie XI, avec sagesse, avait accordé une dispense pour ces gens dans les cas de conversion comme ça, surtout en Afrique, aussi un peu en Asie, il avait accordé le pouvoir de faire un choix, soit de choisir une de leurs épouses qui demeurerait l'épouse légitime, soit de toutes les renvoyer et d'en choisir une autre. C'était souvent le cas des convertis qui voulaient choisir une épouse catholique. Donc ils renvoyaient toutes leurs fausses épouses, leurs épouses civiles, leurs épouses, les épouses officielles, les concubines, tout le monde était renvoyé. Et il fallait, ils pouvaient choisir une épouse qui allait devenir leur épouse devant Dieu. Seulement, au Gabon, il n'était pas question de renvoyer une épouse légale dans son foyer, chez ses parents, sans rendre la dot. Et la dot, c'était considérable. Dans certaines tribus, la dot, ça correspondait à des années de travail pour pouvoir payer la dot. Et quand il y avait une dizaine de dots à rembourser, c'était impossible. Imaginez quelqu'un qui avait remboursé une voiture, par exemple, donner une voiture pour dot. Parce qu'ils avaient reçu une voiture, il fallait qu'ils rendent une voiture dans le même état. Une voiture au Gabon, pour pouvoir se payer une voiture au Gabon, mais il fallait des années de travail acharné, pouvoir mettre suffisamment d'argent de côté et pouvoir s'offrir une voiture. Bon, imaginez qu'il y ait 10 dots de ce genre à rembourser avant de pouvoir légaliser sa situation avec une véritable épouse devant Dieu. Ça fait 10 dots à rembourser, mais il fallait une vie entière pour la rembourser. Et dans la pratique, qu'est-ce qui se passait? C'est que les gens ne pouvaient pas rembourser et donc ne pouvaient pas prendre leurs épouses, ce qui serait terminé tout de suite par les familles. On n'avait pas accepté que leurs filles reviennent chez eux, dans la famille, sans la dot. Et donc, dans des tas de cas, il fallait attendre, malheureusement, c'était triste, mais c'était comme ça, attendre la mort, littéralement, pour que les personnes puissent recevoir, légaliser leur situation. Dans des tas de cas, il fallait être obligé de faire attendre les gens. On attendait qu'ils aient renvoyé toutes les épouses illégitimes, qu'ils aient brûlé et chassé toutes les fausses dévotions qu'ils avaient, les sacrilèges, les superstitions païennes qu'ils avaient dans leur maison. Et on les obligeait à avoir 3 ans de persévérance là-dedans, dans cette bonne voie, avant de pouvoir être baptisés. D'ailleurs, ils avaient ce qu'on appelle vraiment un baptême de désir. Beaucoup d'entre eux pleuraient. « Non, mais je voudrais être baptisé, j'ai renvoyé mon épouse pour pouvoir en prendre une vraie catholique, je n'ai plus aucun gris-gris à la maison, tout a été mis dehors, tout a été jeté, je voudrais être baptisé. » Mais il fallait quand même attendre plusieurs années, hein, surtout dans les campagnes, pour être sûr, encore une fois, que cette personne avait parfaitement renoncé à toutes ses superstitions. Continuez avec les explications données par les pères, page 19 en bas de la page. « Celui qui porte la croix de Jésus-Christ revient des champs, c'est-à-dire se sépare du monde et de ses œuvres pour se diriger vers Jérusalem, c'est-à-dire vers la liberté des cieux. » Donc on descendait du champ vers la ville, c'est-à-dire c'est le symbole, la ville c'est le symbole du monde moderne, du monde païen dans lequel on vit, et on va, étant réquisitionné, on fait demi-tour et on se redirige en montant vers le calvaire, en montant vers la colline sacrée de Jérusalem, c'est-à-dire vers la liberté des cieux. Notre Seigneur nous donne encore ici une importante leçon, c'est que celui qui est à son exemple le maître de ses frères doit commencer aussi par porter sa croix et crucifier sa propre chair par la crainte de Dieu afin d'en charger ceux qu'il instruit et qu'il dirige. La crainte de Dieu, le début de la sagesse. Pas de crainte de Dieu, pas de sagesse. On trouve cette phrase, la crainte de Dieu, début de la sagesse, quoi, c'est dans le tout début, premier chapitre du livre de l'Ecclésiastique. Je vous lis une partie de ce texte, le chapitre 1er du livre de l'Ecclésiastique dans l'Ancien Testament. La crainte du Seigneur est une gloire et un sujet de se glorifier, une joie, une couronne d'allégresse. La crainte du Seigneur réjouira le cœur, elle donnera la joie et l'allégresse et la longueur des jours. Celui qui craint le Seigneur s'en trouvera bien à la fin et il sera béni au jour de sa mort. L'amour de Dieu est une sagesse digne d'être honorée. Ceux à qui elle se découvre l'aiment aussitôt qu'ils l'ont vue et qu'ils ont reconnu ses merveilles. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Elle est créée dès le sein de leur mère avec les femmes fidèles. Elle accompagne les femmes d'élite et elle se montre avec les justes et les fidèles. La crainte du Seigneur est la piété et la piété de la science. Cette piété garde et justifie le cœur. Elle donne le bonheur et la joie. Vous voyez, c'est là, verset 16, où il est dit, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Celui qui craint le Seigneur sera heureux, il sera béni au jour de sa fin. La crainte de Dieu est la plénitude de la sagesse. Cette plénitude se manifeste par ses fruits. Elle comble la maison entière des sages de ses produits et leur grenier de ses trésors. La crainte du Seigneur est la couronne de la sagesse. Elle donne la plénitude de la paix, les fruits du salut. Elle voit la sagesse et elle la mesure. L'une et l'autre est un don de Dieu. La sagesse répand la science et la lumière de la prudence, elle exalte la gloire de ceux qui lui sont attachés. La crainte du Seigneur est la racine de la sagesse, et ses rameaux sont de longue durée. La crainte du Seigneur chasse le péché. Ce sont des textes très importants. Il faut bien comprendre ce que c'est que la crainte de Dieu. Il faut crucifier, dit les textes de Père ici, crucifier sa propre chair par la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, encore une fois, ce n'est pas du tout d'avoir peur de Dieu, c'est d'avoir peur d'offenser Dieu. Celui qui n'a pas peur d'offenser Dieu n'aime pas Dieu. Celui qui n'a pas peur d'offenser Dieu n'a pas la crainte de Dieu. C'est pour cela que le livre de l'Ecclésiastique dit bien, la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Passons à la page 20, au haut de la page. Alors ici, quelques termes, quelques explications des pères de l'Église sur les saintes femmes. Il était suivi, ces versets 27 et 28, d'une grande foule de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et qui se lamentaient sur lui. Et Jésus, se retournant vers elles, leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. S'ils traitent ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois sec ?» Alors voyons un petit peu ce que disent les pères. Page 20, au haut de la page. Un texte de Théophylacte. Les femmes sont aussi la figure de la grande multitude des Juifs qui devaient un jour suivre la croix et embrasser la foi. Il y a parfois beaucoup plus de générosité chez les femmes que chez les hommes. Je vois très bien quand je prêche les exercices de Saint-Ignace et qu'il y a des femmes et des hommes à la retraite, la femme a une piété naturelle qu'a pas l'homme, en général. C'est rare d'avoir des hommes pieux par nature. Par contre, les femmes pieuses, c'est très fréquent. La plupart des femmes qui suivent les exercices de Saint-Ignace, après une journée de retraite, sont prêtes à ce qu'on fait faire la confession générale, alors que les hommes ont besoin souvent de 2 jours, voire 2 jours et demi. Donc la femme signifie, disent les pères, l'âme pécheresse qui, brisée par la contrition, verse les larmes de repentir et marche à la suite de Jésus affligé pour notre salut. Donc elle pleurait par compassion. Rappelez-vous la signification de ce très beau mot français, compassion, cum patere, souffrir avec. Donc on accompagne notre Seigneur Jésus-Christ qui souffre, qui porte la croix. On voudrait porter la croix pour lui, mais on ne peut pas, parce que les soldats ne nous laisseront pas porter la croix. Alors on compatit, on souffre avec lui. Il y a une mère très belle, que j'explique souvent dans les sermons. C'est la maman qui a son petit enfant qui est très malade sur un lit d'hôpital. Alors l'enfant souffre beaucoup parce qu'il a une grave maladie. Et puis elle voudrait prendre les souffrances de son enfant sur ses propres épaules. Elle ne peut pas, alors elle prend l'enfant par la main et lui dit, écoute mon chéri, voilà, ta maman est là, maman est là, c'est tout ce qu'elle fait. C'est ça la compassion. Cependant, il ne faut point pleurer sur celui qui marche volontairement devant des souffrances, mais bien plutôt applaudir à son généreux dessein. Ainsi notre Seigneur Jésus-Christ défend-il à ses femmes de pleurer. Jésus, se tournant vers elle, leur dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez point sur moi. » Pas des larmes que le bon Dieu demande, il demande la conversion du cœur. Un don des larmes, bien sûr, est un don que le bon Dieu accorde parfois, mais ce n'est pas parce qu'on pleure que ça veut dire quelque chose. Les pleurs ne veulent pas dire grand-chose, surtout c'est les femmes qui pleurent très facilement. L'homme a du mal à pleurer. En général, lorsqu'un homme pleure au confessionnal, c'est vraiment un signe de grande contrition. Si la femme pleure au confessionnal, ça peut être un signe de contrition, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que la femme pleure beaucoup plus facilement que l'homme. Texte de Saint Grégoire le Grand. Notre Seigneur se compare au bois vert et nous au bois sec, parce qu'il avait en lui la sève de la puissance divine. Tandis que nous, qui n'avons que la faible humanité en partage, nous ressemblons au bois sec. Ça veut dire, que si les Juifs ont martyrisé notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le bois vert, donc le bois vert qui brûle très difficilement, la passion est représentée par le feu, si vous voulez, qui va brûler le bois vert. Pour brûler du bois vert, il faut beaucoup, beaucoup plus de feu, parce que le bois vert ne brûle pas facilement. Au contraire, nous ne sommes pas du bois vert, nous sommes un bois sec. Donc, évidemment, il ne faut pas être étonné si le bois sec brûle extrêmement facilement. C'est-à-dire que nous brûlerons très, très, très facilement si nous sommes du bois sec. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas coupable, il va porter nos responsabilités sur ses épaules. Donc, parce que nous avons l'humanité en partage, nous ressemblons donc au bois sec. Voici le sens de ces paroles. Si des Romains se sont portés à de tels excès de cruauté sur moi, arbre toujours vert et fécond, que ne feront-ils pas contre vous? C'est-à-dire contre ce peuple qui est comme un bois sec privé de toute sève vivifiante qui n'a jamais produit aucun fruit. Si vous martyrisez de cette façon, alors que je suis bois vert qui brûle très mal, sachez que vous qui êtes du bois sec, vous allez devoir subir également des persécutions terribles, parce que le bois sec, ça brûle très facilement. Ce saint Bède nous dit que c'est à tous que le Seigneur s'adresse et dit « Si moi, qui n'ai point commis de péché, qui suis appelé l'arbre de vie, je ne puis sortir de ce monde sans passer par le feu de ma passion, quels seront les tourments réservés à ces arbres tombés qui n'ont jamais porté de fruits ?» N'oublions pas, c'est tout le symbole de l'arbre, c'est très beau, de même que l'arbre de la connaissance du bien et du mal au paradis terrestre a porté le malheur sur tout le monde. Donc un deuxième arbre, qui est l'arbre de la croix, va apporter la rédemption. De la même façon que le malheur est arrivé sur le monde par la première femme, Ève, la rédemption va arriver sur le monde par une deuxième femme, la mère de notre Sainte Vierge Marie, notre Sainte Vierge Marie elle-même. Avançons, verset 33, page 20. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, ils l'y crucifièrent ainsi que des voleurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Alors le calvaire, c'est ce qu'ils appelaient le Golgotha, le lieu du crâne. Bon, il y a plusieurs explications. D'abord parce qu'il y avait beaucoup d'ossements humains près de ce lieu du calvaire, à cause du nombre de personnes qui étaient crucifiées en ce haut lieu. Et aussi parce que d'après une tradition qui n'a jamais pu être prouvée, les juifs croient toujours, les prêtres juifs, les membres du Sanhédrin juif croyaient, à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas si c'est toujours enseigné, que ce lieu est appelé Golgotha parce que sous ce lieu, sous la pierre, était enterré, la pierre de rocher était enterré, le crâne d'Adam, le premier homme. Évidemment, ce symbole était très beau. Notre Seigneur Jésus-Christ, nouvel Adam, qui vient mourir pour réparer la prévarication du premier Adam, à savoir le premier homme créé par Dieu. Verset 33, donc lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé calvaire, ils les crucifièrent ainsi que des voleurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Donc les pères de l'Église, c'est très intéressant, disent que ce calvaire correspond au mont Moria. Le mont Moria, c'est le mont sur lequel Abraham a voulu sacrifier son propre fils Isaac. Vous connaissez tous l'histoire. Et l'ange du Seigneur a arrêté la main d'Abraham qui devait crucifier son fils, qui devait sacrifier son fils pour l'empêcher de faire ce sacrifice. Donc le mont Moria représente le calvaire, c'est le calvaire, c'est la même montagne sur laquelle Abraham devait sacrifier son fils, et la même montagne sur laquelle plusieurs milliers d'années après, Dieu va sacrifier son propre fils, mais cette fois-ci il n'y aura pas d'ange qui va arrêter le couteau du sacrifice, du sacrificateur. Le sacrifice va être accompli jusqu'au bout. Pour que vous compreniez plus facilement, je vous lis cette partie du livre de la Genèse, C'est au chapitre 22 de la Genèse, le premier livre de l'Ancien Testament. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, il répondit, me voici. » Et Dieu dit, « Prenez votre fils, votre unique, celui que vous aimez, Isaac, et allez-vous-en au pays de Moria, et là, offrez-le en holocauste sur l'une des montagnes que je vous indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, ayant scellé son âne, et il prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous voulons aller jusque-là et adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Et Abraham prit le bois de l'holocauste et le mit sur Isaac. Son fils lui-même portait dans sa main le feu et le couteau, et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Donc Isaac, qui place le bois de l'holocauste sur le dos de son enfant, Abraham qui place le bois de l'holocauste sur le dos de son enfant Isaac, représente Dieu le Père, évidemment, qui place la croix sur le dos de son propre fils. Ils s'en allèrent tous deux ensemble. Isaac parla à Abraham, son père lui, mon père. Il répondit, « Mais voici mon fils. » Et Isaac dit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu verra. A trouvé l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Ils allaient tous deux ensemble. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait désigné, Abraham y éleva l'autel, il arrangea le bois, puis il lia Isaac, son fils, et le mit sur l'autel au-dessus du bois. Et Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de Yahvé lui cria du ciel et lui dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Et l'ange dit, « Ne portez pas la main sur l'enfant et ne lui faites rien, car je sais maintenant que vous avez craint Dieu, que vous n'avez point refusé votre fils, votre unique. » Et Abraham, ayant levé les yeux, vit derrière lui un bélier pris dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et on voit très bien là comment ce sacrifice d'Abraham représente de façon extraordinaire le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, la grande différence, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice n'a pas été interrompu par l'arrivée d'un ange pour arrêter le couteau du sacrificateur. Non, le sacrifice est allé jusqu'au bout. Donc, par sa mort sur la croix, qui commence ici, qui est préparée ici, dans ce temps de la Passion, par sa mort sur la croix, Dieu prouve sa nature humaine. Dieu ne peut pas mourir. Donc il fallait qu'il soit homme pour pouvoir mourir. Et par sa résurrection, je ne sais pas, 3 jours après le vendredi saint, il va prouver sa nature divine. Un homme ne peut pas ressusciter. Donc il est vraiment homme, vraiment Dieu, c'est tout le mystère de l'incarnation. Au milieu de la page 20 du polycopié, le Verbe de Dieu, voulant prouver que le corps dont il s'est servi, pour le salut du genre humain est supérieur à la mort, l'a livré à la mort pour montrer sa nature humaine, puis presque aussitôt l'a délivré de la mort par la vertu de sa divine puissance, telle est la première raison de la mort de Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, disent les Pères, accepte la mort sur la croix pour prouver justement sa nature humaine par les souffrances de la croix et par la résurrection du dimanche de Pâques, va prouver sa nature divine. Deuxièmement, cette mort de Jésus-Christ sur la croix consiste à permettre de faire ressortir la toute-puissance divine qui habite dans son corps, comme dans un temple. Dans l'Antiquité, on déifiait les hommes qui avaient subi la loi commune de la mort et on leur décernait le nom de héros et de Dieu. Mais Jésus a voulu nous enseigner que celui-là seul méritait d'être proclamé vrai Dieu après sa mort, qui avait triomphé de la mort et s'était revêtu des glorieux trophées de sa victoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ explique son humanité. Il est vraiment homme et en même temps fait ressortir la toute-puissance divine. C'est par la puissance divine qu'il a pu ressusciter d'entre les morts le jour de Pâques. Troisième raison de sa mort, le disent les Pères, a été d'immoler une victime digne pour le salut du genre humain tout entier. Une victime dont l'immolation détruisit la puissance des démons et anéantit toutes les erreurs. Il y a quelque chose d'infini dans le péché, puisque le péché consiste à désobéir à la loi de Dieu. Donc je mets le bon Dieu dehors, en dehors de mon âme. Donc il y a quelque chose d'infini dans la gravité du péché, parce que c'est Dieu qui est offensé. Dieu qui est au sommet qui est au-dessus de toutes les créatures. Donc puisque le péché correspond à quelque chose d'infini, il fallait un sacrifice de nature infinie pour rattraper l'infinité du péché, l'infinie gravité du péché. Et le seul être infini qui existe, c'est Dieu. Donc Dieu a dû s'envoyer lui-même, il a envoyé son propre fils, puisqu'il y a trois personnes dans la Sainte Trinité, il a envoyé la deuxième personne pour mourir sur la croix. Pour que cette deuxième personne puisse mourir, il a fallu qu'elle s'unisse à une nature mortelle, donc elle s'est unie à la nature humaine, et c'est la nature humaine qui a été crucifiée et qui va mourir. Donc la nature humaine est séparée de la nature divine, en quelque sorte, d'une certaine façon, bien qu'attention, je reprends ma phrase pour m'expliquer, le corps et l'âme, plus directement, dans la nature humaine sont séparés, puisque notre Seigneur va vraiment mourir à la croix, mais il est toujours Dieu. Pour bien manifester qu'il est toujours Dieu, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est après la mort sur la croix, détaché de la croix et porté au tombeau, il va rester pendant 3 jours, ce corps est uni toujours à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, après la séparation avec son corps, puisqu'il est vraiment mort le vendredi saint, donc il y a eu véritablement séparation entre le corps et l'âme, sinon il n'y aurait pas mort, puisqu'il y a eu séparation. L'âme, elle aussi, est toujours unie à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et étant unie à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, cette âme unie à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ va donc descendre aux enfers, c'est-à-dire à la salle d'attente de tous les justes de l'Ancien Testament, et à cause de la divinité qui est présentée à ces gens-là, qui attendaient depuis parfois des millénaires, eh bien, ce lieu, l'enfer des patriarches, va être transformé littéralement en paradis. Troisième raison de la mort. Donc, immoler une victime digne pour le salut du genre humain tout entier, une victime dont l'immolation détruisit la puissance des démons et anéantit toutes les erreurs. Donc, la seule victime suffisamment digne pour rattraper un péché infini de gravité, c'était notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu lui-même, unir notre nature humaine. Il y a quelque chose, évidemment, Dieu est seul être infini, seul être éternel. Faire attention, surtout en français, on a tendance à utiliser le mot éternel pour beaucoup de choses qui ne sont pas éternelles. Et même des expressions qui sont presque passées dans la vie courante la vie courante des chrétiens sont théologiquement complètement fausses. On parle souvent de l'éternité des flammes de l'enfer. L'enfer n'est pas éternel, l'enfer est immortel. Si l'enfer est éternel, il aurait fallu que l'enfer existe à toujours. Qui dit éternel dit ni début ni fin, Dieu seul est éternel. L'enfer n'est pas éternel puisqu'il a été créé par Dieu. Il a été créé par Dieu au moment de la prévarication de Lucifer au ciel. Donc attention, l'enfer, strictement parlant, est immortel et pas éternel parce qu'il y a un début de l'enfer. Le paradis est éternel, il a toujours existé, le paradis c'est Dieu. Quatrième raison, pour rendre à ses disciples témoins de sa résurrection, de ranimer ainsi leur foi, de relever leur espérance, de les préparer à marcher avec joie au combat contre toutes les erreurs sans craindre la mort. Notre Seigneur avait déjà fait ça au sommet du Tabor. Au sommet du Tabor, il s'était transfiguré vers Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. C'est quoi la transfiguration? Notre Seigneur Jésus-Christ va dévoiler une toute petite partie de sa divinité. Son corps va devenir resplendissant comme le soleil. Ses vêtements vont devenir plus blancs que les habits nettoyés avec par les femmes de Jérusalem, pour bien montrer justement que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment homme et vraiment Dieu. Donc notre Seigneur Jésus-Christ s'est transfiguré devant ses apôtres, trois de ses apôtres au sommet du Tabor, pour leur donner la confiance en disant: rappelez-vous, attention, n'oubliez pas, je suis Dieu. Vous ne voyez que l'humanité, mais je suis Dieu. J'ai en moi la vision béatifique. Malheureusement, ils vont l'oublier. Ils vont l'oublier. Et c'est la même chose pendant la Passion, au moment de la crucifixion. Quand notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, exemple, sur la croix, il a toujours la vision béatifique. Attention, il est toujours Dieu. Donc, il y a toujours cette union entre l'humanité et la divinité. Dans son humanité, il voit Dieu. Autre phrase importante en bas de la page 20. On ne lui coupe point la tête comme à Saint Jean-Baptiste. Son corps n'est pas scié comme celui d'Isaïe, mais il veut que son corps reste entier, indivisible jusque dans la mort, pour ne point donner un prétexte à ceux qui voudraient un jour mettre la division dans l'Église. L'Église, corps mystique du Christ. Donc, de même que le corps physique de notre Seigneur Jésus-Christ est resté indivisé, pas un seul de ses os ne fut brisé, de la même façon, son corps mystique, qui est l'Église, doit rester indivise. Donc, attention, hein, l'Église ne peut pas être divisée parce que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Et c'est pour ça que de dire qu'il faut prier pour rétablir l'unité de l'Église, c'est un blasphème. Parce que l'Église, si je dis il faut prier pour rétablir l'unité de l'Église, ça veut dire que l'unité de l'Église a été perdue. Or, l'unité de l'Église est divine, elle ne peut pas être perdue, c'est impossible. L'Église est une sainte catholique et apostolique, elle le sera jusqu'à la fin des temps. Donc si je dis que l'Église a perdu son unité, je nie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est blasphématoire. Jésus voulut encore porter la malédiction que nos péchés avaient attirée sur nous en subissant une mort qui était maudite, la mort de la croix, selon cette parole. Maudit de Dieu est l'homme qui est suspendu au bois. Rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué, que la crucifixion était le châtiment des esclaves qui s'étaient révoltés, des esclaves qui s'étaient en fuite quand ils étaient rattrapés, ils étaient crucifiés vivants. Donc Jésus meurt, les bras étendus sur la croix, pour attirer d'une main le peuple ancien, de l'autre le peuple des gentils, et pour ne plus faire des deux qu'un seul peuple. Donc, d'un côté, il attire, il tient par la main le peuple des anciens, le peuple juif, et de l'autre côté, il attire le peuple qui va remplacer le peuple, substituer le peuple juif, à savoir le peuple des catholiques. Je vous l'ai toujours dit, il ne faut pas oublier ces choses qui sont essentielles dans la doctrine catholique, que le peuple juif était, avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, le peuple élu, mais ne l'est plus. Il a été substitué par le peuple catholique qui est le nouveau peuple élu. Donc, notre Seigneur meurt sur la croix pour purifier également l'air souillé par la présence des démons, nous ouvrir la voie qui conduit au ciel. Une très belle phrase aussi dans saint Thomas d'Aquin sur ce sujet, même que j'ai déjà expliqué en d'autres lieux. Une conférence d'explication de la Passion. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, donc, étend les bras sur la croix pour attirer les deux peuples, le peuple ancien et le peuple nouveau. Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Et il va purifier l'air souillé par la présence des démons. En bas de la page 20, Théophylacte, c'est par le bois de la croix, que la mort est entrée dans le monde. Pardon, c'est par le bois de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le paradis terrestre, que la mort est entrée dans le monde. C'est par le bois de la croix qu'elle devait en être chassée, et que le Seigneur devait passer sans en être victime par les douleurs du bois de la croix pour expier la volupté produite par le fruit de l'arbre du paradis. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève ont désobéi à la loi de Dieu qui avait dit « Vous ne toucherez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Ils ont désobéi. Comme il y a un acte d'orgueil, ils ont tout perdu. C'était la catastrophe du péché originel. Passons à la page 20, il reste encore quelques minutes pour finir cette partie de la Passion. On a encore plusieurs pages, puisque vous pouvez les copier, on va jusqu'à la page 25 pour le chapitre 23 de Saint-Luc. Au la page 21, un texte de Saint-Grégoire de Nicée. La forme de la croix, dont les quatre extrémités partent d'un même centre, signifie que la vertu et la puissance de celui qui est attaché s'étendent partout. Donc la forme de la croix, on dit que le Père disait que les quatre bouts de la croix, celui qui est au sol, celui qui est au sommet et les deux bouts latéraux, représentent les quatre points cardinaux. Le nord, le sud, l'orient et l'occident. Et donc les quatre points cardinaux pour bien montrer que notre Seigneur Jésus-Christ meurt pour tous les gens du monde entier. Saint Augustin nous dit que ce n'est pas sans raison que Jésus a choisi ce genre de mort. Il a voulu nous enseigner quelle est cette largeur, cette longueur, cette hauteur, cette profondeur dont parle l'apôtre. Donc la largeur, c'est le sens mystique de la croix, la largeur est dans la partie de la croix qui est en travers, désigne les bonnes œuvres. Parce que les mains y sont attachées. Le travail des mains, c'est le symbole des bonnes œuvres. La longueur de la croix, et dans la partie du bois qui descend du haut jusqu'à terre. Et c'est là qu'elle trouve son point d'appui, c'est-à-dire sa fermeté, sa persévérance, qui sont les fruits de la patience. Pas de fruit de patience sans fermeté, persévérance, stabilité de cette croix qui est fixée sur le rocher, sur le sol. La hauteur est cette partie de la croix qui part du centre et s'étend vers le haut, c'est-à-dire la tête du crucifié, parce que la véritable espérance tend vers le ciel. Donc la partie au-dessus de la tête qui monte vers le ciel représente la vertu d'espérance. Enfin, la partie du bois de la croix qui est enfoncée dans la terre ne paraît point et soutient tout le reste, représente la profondeur de la grâce que Dieu nous donne gratuitement. C'est pour ça que la croix est profondément enfoncée dans le rocher du Calvaire, le rocher du Golgotha. Certains pères ont mis comme image que le sang du Christ qui coule du Sacré-Cœur au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qui coule du Sacré-Cœur, va être imbibé par la pierre, le roc qui soutient la croix sous ses pieds, sous les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, et le sang va passer à travers les fissures du rocher pour aller imbiber, arroser le crâne d'Adam qui aurait été enterré sous le rocher du Calvaire. Bon, ce n'est encore une fois historiquement pas prouvé que le crâne d'avant d'Adam est là, on n'a jamais été retrouvé, mais l'image est quand même très belle. Donc les deux voleurs représentent tout Saint Dismas et Gestas, les deux larrons vont représenter, qui sont crucifiés avec Jésus-Christ, représentent l'intégralité des chrétiens, des bons et des mauvais. Ceux qui vont persévérer, ceux qui vont se convertir, comme Saint Dismas, et ceux qui malheureusement vont rejeter notre Seigneur Jésus-Christ, comme Gestas. Je vous cite ici quelques-unes des plus belles phrases de saint Thomas d'Aquin, justement sur la passion. On trouve dans la tertia pars, la troisième partie de la somme, à partir de la question 46. Donc saint Thomas se pose la question de savoir si cette manière de délivrer les hommes était la plus appropriée. Je cite certains passages, j'ai pas le temps de tout lire. Par elle, par la passion, d'abord saint Thomas va citer en introduction, un texte de saint Augustin: pour guérir notre misère, il n'y avait pas de moyen plus adapté que la passion du Christ. Par elle, l'homme connaît combien Dieu l'aime, et par là, il est provoqué à l'aimer, et c'est en cet amour que consiste la perfection du salut de l'homme. Par la passion, le Christ nous a donné l'exemple de l'obéissance, de l'humilité, de la constance et de la justice, et des autres vertus nécessaires au salut de l'homme. Le Christ, par sa passion, n'a pas seulement délivré l'homme du péché, il a en outre mérité la grâce de la justification et la gloire de la béatitude. Du fait de la passion, l'homme comprend qu'il est obligé de se garder pur de tout péché lorsqu'il pense qu'il a été racheté du péché par le sang du Christ, parce que la passion a conféré à l'homme une plus haute dignité. Puis il précise, il convenait au plus haut point que le Christ souffrit la mort de la croix pour nous donner d'abord un exemple de vertu. Ce genre de mort était parfaitement apte à satisfaire pour le péché de notre premier père. Celui-ci l'avait commis en mangeant le fruit de l'arbre interdit, c'est Adam. Contrairement à l'ordre de Dieu, il convenait donc que le Christ, en vue de satisfaire pour ce péché, souffrit d'être attaché à l'arbre de la croix comme pour restituer ce qu'Adam avait pris, avait enlevé. Par sa mort sur la croix, le Christ a préparé notre ascension au ciel. On trouve certaines des citations que je vous ai expliquées, ou des citations parallèles. Le Christ a souffert sur un arbre élevé et non sous un toit, afin de purifier la nature de l'air. La terre elle-même a ressenti les effets de la passion, car elle a été purifiée par le sang qui coulait goutte à goutte du côté du crucifié. Donc la figure de la croix, on se rejoint au centre, quatre branches opposées symbolisent que la puissance et la providence de celui qui est suspendu se répandent partout. Il meurt en étendant les mains sur la croix, de l'une il attire l'ancien peuple, de l'autre ceux qui viennent des nations. Je vous donne le passage magnifique là où saint Thomas, en reprenant un peu certains des textes que je viens de vous citer, un texte de saint Thomas, un excellent exégète. Par ce genre de mort du Christ sur la croix sont symbolisées diverses vertus, voilà ce qu'il dit. La largeur de la croix se trouve dans la traverse supérieure. Elle figure les bonnes œuvres parce que les mains y sont étendues. La longueur est ce que l'on voit du bois au-dessus de la terre, et c'est là qu'on se tient, pour ainsi dire, debout, ce qui figure la persévérance et la persistance, fruit de la longanimité. La hauteur se trouve dans la partie du bois située au-dessus de la traverse. Elle se tourne vers le haut, c'est-à-dire vers la tête du crucifié, parce qu'elle est la suprême attente de ceux qui ont la vertu d'espérance. Enfin, la profondeur comprend la partie du bois qui est cachée en terre, et toute la croix semble en surgir, ce qui symbolise la profondeur de la grâce gratuite. C'est un texte que j'ai déjà cité. Le bois auquel étaient cloués les membres du crucifié était ainsi la chair d'où le maître enseignait. Encore un autre texte de saint Thomas. Ce genre de mort sur la croix répond de très nombreuses préfigurations. Une arche de bois a sauvé le genre humain du déluge. Lorsque le peuple de Dieu quittait l'Égypte, Moïse a divisé la mer à l'aide d'un bâton, et terrassant ainsi le pharaon, il a racheté le peuple de Dieu. Ce bâton, c'était la croix. Ce même bâton, Moïse l'a plongé dans une eau amère qui l'a rendue douce. Et c'est encore avec un bâton que Moïse a fait jaillir du rocher préfiguratif une eau salutaire. Pour vaincre Amalek, Moïse tenait les mains étendues sur un bâton. Sur son bâton, la loi de Dieu était confiée à l'arche d'alliance qui était en bois. Par là, tous étaient comme par degrés amenés au bois de la croix. Donc, je continuerai un peu ces textes au premier prochain cours, parce que je ne veux pas vous garder trop longtemps, ça fait déjà plus d'une heure que je vous parle. Nous terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.